pratiques mystérieuses qui sont cachées.
Je vous la remets, je suis désolé, mais il faut entendre. Si vous ratez le début, vous ne comprenez pas de quoi elle parle. Donc, puis c'est le premier mot en plus, alors il ne faut pas le rater. 3, 4.
L'ésotérisme, en fait, c'est une discipline qui enseigne des pratiques mystérieuses qui sont cachées du grand public et qui sont destinées à un nombre d'initiés assez restreint, capables, en fait, de comprendre ces enseignements. Alors, pourquoi un nombre restreint? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut une très grande ouverture d'esprit et une très grande déconstruction pour aller chercher, essayer de comprendre ce qu'on ne voit pas physiquement.
Une lecture franche des écrits néo-testamentaires, donc le Nouveau Testament, laisse clairement apparaître que Jésus était bien le chef de file d'un groupe d'initiés. Et de nos jours, ce n'est plus un secret pour personne que le christianisme des origines, en tout cas, n'est en fait qu'une remasterisation des mystères alchimiques antiques.
Voilà. Si vous vous demandez un petit peu à quoi je passe ma semaine, bah des fois, c'est à ce genre de choses. On ne s'ennuie pas. Quand on se penche sur le thème de l'ésotérisme, on regarde pas mal d'âneries, mais en tout cas, on ne s'ennuie pas. Alors, je dis que cette convergence d'intérêts entre l'étude que je fais en ce moment sur l'ésotérisme pour les besoins du ministère et la série de prédications sur l'épître aux Colossiens qui m'amène sur ce même sujet n'est sans doute pas fortuite, parce que, vous l'avez entendu avec ce monsieur, en fait, il existe un christianisme ésotérique. Alors, qui n'a de christianisme que le nom, et c'est bien là le problème, le vocabulaire. Ces gens-là vous parlent de Dieu, ils vous mettent Jésus à toutes les sauces, ils vous parlent de communion des saints, ils vous parlent de l'évangile, en particulier celui de Jean, mais ce qu'ils mettent derrière ces termes qui nous sont communs, et derrière la lecture qu'ils font des Écritures, n'a vraiment mais rien à voir avec le Dieu auquel nous croyons et le Jésus dont nous confessons le nom. C'est une singerie, c'est une imitation, mais du coup, c'est aussi assez trompeur, parce que dans le langage, on se dit « Ah ben, je suis face à un chrétien ». Eh ben, pas toujours. Et malheureusement, c'est séduisant. C'est séduisant d'abord pour tous ceux qui sont déçus de la foi chrétienne, déçus par l'Église, blessés peut-être par des frères ou des sœurs, parce qu'ils vont trouver là un discours qui semble chrétien. Voilà, c'est les bons termes, c'est les bons mots, c'est voilà, et qui va peut-être leur permettre, pensent-ils, de renouer avec le Christ qu'ils aiment, et peut-être même encore plus profondément, parce que c'est ça la promesse de l'ésotérisme, vous amener à une connaissance cachée. On va, je l'aurais bien zappé, lui. On peut pas le zapper? Non, je peux pas, parce qu'il est beau, mais voilà, merci. La promesse de l'ésotérisme, c'est de vous amener à une connaissance cachée, et tout ça sans se farder l'Église qui, pour le coup, il n'aime plus ou pas. C'est séduisant aussi parce que ça vient flatter l'orgueil. Vous l'avez entendu, il y a des initiés. Il y a des initiés, donc il y a des choses secrètes qui ne sont accessibles qu'à une poignée d'élus, des êtres capables, là aussi vous l'avez entendu, d'une très grande ouverture d'esprit, bien plus que la moyenne, et bien plus que les chrétiens de façon générale d'ailleurs, et d'une très grande déconstruction. On déconstruit beaucoup en ce moment. Et ça, vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde d'être ouvert comme ça. Alors est-ce que vous voulez faire partie de l'élite qui accède à des connaissances secrètes? Est-ce que vous voulez faire partie des êtres éveillés? Ou est-ce que vous voulez rester au niveau de la plèbe des ignorants? Toute ressemblance avec les discours complotistes n'est absolument pas un hasard, on est exactement dans le même registre. Vous allez savoir des choses que les autres ne savent pas. Ça vient flatter l'orgueil, hein. Ça vient toucher une corde sensible. On va accéder à des connaissances qui ne sont l'apanage que de quelques initiés. C'est quand même classe, quoi. Alors heureusement, la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure nous prévient. Si j'arrive à faire... Non, j'y arrive pas. J'y arrive un coup sur deux. Bon, si tu peux mettre en route...
Alors par contre, attention, ce qui est caché du grand public attire souvent des personnes très mal intentionnées, des escrocs, des charlatans. Et il faut vraiment faire extrêmement attention. Il faut vraiment, là, c'est très très important d'avoir l'esprit critique et surtout, on ne donne pas d'argent.
Voilà, donc on est rassuré là. Pour paraphraser les inconnus, vous avez le bon ésotérisme et puis vous avez le mauvais ésotérisme. Le mauvais ésotérisme, il interprète la Bible et il lui fait dire mais n'importe quoi. Alors que le bon ésotérisme, il interprète la Bible Bon, il lui fait dire n'importe quoi aussi, mais c'est un bon ésotérisme, quoi, parce qu'il ne te demande pas d'argent, celui-là. Voilà, donc maintenant, attention, parce que l'apôtre Paul débarque. On y va, ou pas. Paul nous dit ceci en Colossiens 1, 24 à 2, verset 5. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée à ce qui manque aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que moi je suis devenu ministre selon l'intendance de Dieu qui m'a été accordée pour vous afin d'accomplir la parole de Dieu, ce mystère qui a été caché de tout temps et à toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est parmi les non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. C'est pour cela que je me donne de la peine, en combattant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riche d'une pleine conviction de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi dans le Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous nous rappelons qu'elle est lumière et vie, nous nous rappelons que c'est elle qui nous guide vers de verts pâturages, Seigneur. Nous savons que dans le monde qui nous entoure, il y a de nombreuses paroles qui sont prononcées, parfois des paroles qui ressemblent fort à la tienne et qui pourtant disent tout à fait autre chose, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous approchons de ta parole de vérité. Nous te prions, Seigneur, pour que cette parole que nous venons de lire puisse s'ancrer en nous et porter du fruit. Nous savons qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Seigneur, cette parole, elle est ou pour notre purification ou pour notre jugement. Seigneur, nous te prions qu'elle nous purifie et qu'elle nous aide à te connaître mieux, à avancer vers toi. Nous savons que pour ça, nous avons besoin de ton Esprit Saint. C'est pourquoi nous en appelons à ton Esprit Saint, Seigneur, pour qu'il illumine notre entendement, nos pensées, et que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Amen. Alors c'est un texte dans lequel il est question d'un mystère. Et là on voit bien sur quoi peut s'appuyer effectivement l'ésotérisme dans sa récupération de la foi chrétienne. Il est bien là question d'un mystère caché dont Paul est devenu ministre. Et ce mystère évidemment il est pour une poignée. Jésus s'est entouré de 12 disciples et blablabla et blablabla. Alors on va le voir, ce discours est un non-sens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais aborder trois bizarreries qu'on trouve dans ce texte. Donc je rappelle ce texte si vous voulez le suivre dans vos Bibles, parce que ça va être compliqué sinon de faire des allers-retours sur le texte. C'est Colossiens 1, 24 à 2, verset 5. Quelques bizarreries dans ce texte. La première, c'est que vous avez vu et que j'ai lu en fait de Colossiens 1, 24 à Colossiens 2, 5. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi un texte à cheval sur deux chapitres? Alors ça c'est presque plus de la culture générale, pardon, mais c'est l'occasion en fait de rappeler que le découpage en chapitres et en versets ne fait pas partie du texte original. C'était pas comme ça dans le texte original, ça c'est un découpage qui a été fait ultérieurement pour nous faciliter la tâche au moment de chercher une référence. Or, il se trouve que si ce découpage est souvent pertinent, il n'est néanmoins pas inspiré de Dieu, contrairement au texte lui-même, et parfois, comme ici, on peut penser qu'on aurait pu faire autrement. Et donc, dans le passage tel que je l'ai proposé à votre lecture, il y a une unité de pensée que je m'attacherai à vous montrer un peu plus tard. La deuxième bizarrerie, qui est quand même un peu plus... c'est que Paul balance ici une hérésie. Hein ? Non ? Vous ne l'avez pas vu ? Non, je blague, hein. Mais enfin quand même, Paul attaque en disant qu'il se réjouit dans ses souffrances pour les Colossiens et qu'il supplée à ce qui manque aux détresses du Christ dans sa chair, pour l'Église. Alors, il manque quelque chose aux souffrances du Christ, apparemment, aux détresses du Christ. Il manquerait quelque chose. C'est quand même assez troublant. Qu'est-ce qui manque aux détresses du Christ ? Certains courants du christianisme se sont engouffrés dans une théologie de la souffrance rédemptrice. Je commence à employer des gros mots. C'est quoi ? C'est une souffrance qui prend part au salut, comme si elle venait parachever l'œuvre du Christ à la croix, dont la souffrance et la mort auraient été insuffisantes pour nous sauver. Si tu souffres, c'est bon pour ton salut. Voilà. Tu achèves l'œuvre du Christ par tes souffrances. Et évidemment, ce n'est pas du tout de ça dont Paul parle. On va le voir ensuite. Ça, tout ça, c'est un teasing, vous voyez. Il faut écouter la suite pour savoir ce qui se passe. Et la troisième bizarrerie, c'est que les commentateurs font remarquer qu'on pourrait parfaitement enlever le texte qu'on a lu sans que ça change rien au propos central de l'épître. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, j'ai regardé, et c'est vrai. Vous pouvez essayer, vous pouvez lire et passer tranquillement de Colossiens 1:23 à Colossiens 2:6, et c'est fluide, il manque rien. Alors, c'est comme si ce texte était une espèce de grande parenthèse, et du coup, les théologiens se sont posé la question de savoir pourquoi Paul a cru bon d'ajouter cette parenthèse. Et voilà ce qu'on observe dans les chapitres, enfin ce qu'ils observent en l'occurrence, dans les chapitres qui vont suivre, Paul va exhorter les Colossiens et il va le faire avec une certaine autorité. Et oui, mais en fait, les Colossiens, ils ne le connaissent pas vraiment, Paul. C'est pas lui qui a fondé l'Église. On a vu dans la première prédication de la série que c'est par Épaphras que l'Évangile est arrivé là-bas à Colosse. Alors, ce n'est pas qu'ils ne le connaissent pas du tout, probablement ils en ont entendu parler, peut-être même qu'ils l'ont vu une ou deux fois, mais voilà, ils ne le connaissent pas plus que ça, et donc Paul aurait ici un souci de légitimité. Et c'est intéressant, je trouve d'ailleurs, de voir que ça le préoccupe. Même un super apôtre comme Paul ne considère pas... Ah, un, deux, c'est bon. Ne considère pas que la confiance lui est due. Et je trouve que c'est un constat intéressant pour tous les pasteurs, tous les prédicateurs, et autres enseignants et leaders d'église. La confiance ne nous est pas due. Alors, Paul arrive avec un message. Décidément, c'est quand ça veut, cette affaire. C'est par là qu'il faut, je ne sais pas, non. Pourtant, il y a des piles, il y a tout ce qu'il faut, je ne sais pas, il faudra qu'on regarde ce qui se passe. Le message de Paul, donc, c'est le fameux mystère. Alors, dans notre texte, on observe une structure intéressante. Que voici ? Alors, c'est un peu abscon comme ça, et ça va le rester en plus, parce que je vais passer là-dessus un peu rapidement. Je vous demande soit de me faire confiance, soit de faire une photo, puis vous vérifiez chez vous. Mais la structure, la voici. On commence par Paul qui parle de ses souffrances pour le corps de Christ. Puis ensuite, le texte va parler de sa mission, qui est d'accomplir la parole de Dieu. Ensuite, il parle de son message, qui est le mystère, ce fameux mystère. Puis on revient à la mission, annoncer la parole. Et puis on revient aux souffrances, voilà, au verset 29. Puis après, au chapitre 2, on repart sur... Alors là, on est sur le combat de Paul. Mais voilà, un combat, c'est difficile. Enfin, on sent que, voilà, qu'il y a une souffrance là aussi. Puis la mission, encourager et affermir, puis le message, à nouveau le mystère, puis on revient à la mission, et enfin on a la présence de Paul en esprit, voyant l'ordre et la solidité, ce qui est un langage aussi de, je dirais, un peu de, je ne vais pas dire guerrier, mais enfin on sent que là aussi il y a quelque chose de l'ordre de la lutte, en tout cas dans le vocabulaire. Alors la première chose qui saute aux yeux, je crois, ou pas d'ailleurs, mais enfin bon, moi en tout cas je le vois, c'est cette idée d'unité dont je parlais tout à l'heure. Je vous disais qu'il y a une unité dans ce passage, même s'il est sur deux chapitres. On voit que voilà, il y a une structure là qui se répète. Il y a une unité littéraire. La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est que Paul parle de ses souffrances et de son combat. Il parle de sa mission et il parle de son message. Et ça nous éclaire, je crois, sur cette drôle d'affirmation quand Paul dit qu'il supplée à ce qui manque aux détresses du Christ. Vu le contexte, il est clair qu'il ne fait pas référence à la rédemption, comme s'il manquait quelque chose aux souffrances du Christ pour notre salut. Il fait référence aux souffrances liées à la mission. Il parle bien de la mission et de son message. Et c'est de ces souffrances-là dont il parle. Pour Paul, la mission de Jésus implique de la souffrance. Et cette mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples, on le voit en Matthieu 28 à la fin, Et c'est en ce sens-là qu'il manque aux détresses du Christ. Cette mission, elle n'est pas arrivée à son terme. Nous y avons nous-mêmes part. Et du coup, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Et puis, la troisième chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est cette structure parallèle, là, ce que j'ai manifesté un peu comme ça. C'est ce qu'on appelle un chiasme. Ça, c'est une structure littéraire hébraïque dont l'intérêt principal, en tout cas de ce type-là de chiasme, est de nous montrer ce que l'auteur souhaite mettre en avant. Et ce qu'il souhaite mettre en avant, c'est en général ce qui est au... Enfin, c'est pas en général, c'est comme ça. C'est ce qui est au centre du chiasme, de la structure. Et donc là, ce que Paul veut mettre au cœur de son message, c'est cette idée de mystère dont il est ministre. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que ce mystère ? Est-ce qu'il s'agit là d'un secret d'initié ? Eh bien, en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, d'abord, parce que dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, le mot mystère désigne quelque chose de pas encore révélé. De pas encore révélé. Quelque chose qui est inscrit dans le plan de Dieu depuis longtemps, qui jusque-là était caché aux êtres humains, mais qui n'est pas destiné à rester caché. Et quel est ce mystère ? Eh bien, ce mystère, c'est que jusqu'à présent, Yahvé, l'Éternel, c'était le Dieu des Juifs. Et le mystère, ce qui était inscrit dans le plan de Dieu depuis le commencement, ça se vérifie partout dans la Bible, hein, et qui est maintenant révélé au monde entier. Ce mystère, c'est que le salut, il n'est pas que pour les Juifs. Il est aussi pour les non-Juifs. Il est pour tout le monde. Donc ça, c'est tout l'inverse d'un secret d'initié, en fait. C'est quelque chose qui doit être annoncé à tous, à tout le monde, pas seulement aux Juifs, à tout le monde. Le Christ est en vous l'espérance de la gloire, dit Paul, aux non-Juifs. Ça, c'est le ministère qui a été confié à Paul, annoncer aux païens que l'amour de Dieu, il est pour eux aussi, il est pour tout le monde. Donc c'est l'inverse du secret. On doit annoncer ça à tous. Ensuite, il a une mission. Sa mission, c'est d'annoncer le Christ. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit là deux choses importantes. D'abord, le fait même d'un mystère révélé montre le caractère progressif de la révélation de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Face à une vision figée de la foi, l'Évangile nous présente une démarche dynamique. Une démarche qui s'inscrit dans le temps. La réconciliation de Dieu avec le monde, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle s'est déployée progressivement au cours de nombreux siècles. Il y a une pédagogie de Dieu. Ainsi, en lisant et en étudiant la Bible, on voit d'abord que Dieu se constitue un peuple, le peuple juif. Il le met à part, il le met même physiquement à part, il lui donne une terre, il lui donne une loi qui lui est propre. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle vient révéler ? Elle vient révéler la sainteté de Dieu et le caractère pécheur de l'être humain, parce qu'en fait, le peuple n'arrive pas à se conformer à cette loi. Et donc cette loi, elle prépare les cœurs à la nécessité d'un sauveur. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça a pris du temps tout ça. Et puis, un jour, ce sauveur arrive, c'est Jésus, on le sait, et lui-même affirme venir pour le peuple juif, c'est ce qu'il dit plusieurs fois dans les évangiles, il est là, lui, pour le peuple d'Israël. Et pourtant, on voit ça et là des païens qui viennent à la foi, comme on en avait vu déjà, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, comme Rahab, la prostituée de Jéricho, ou Ruth, la Moabite, qui ne font donc pas partie du peuple juif, et qui vont même faire partie de la généalogie de Jésus. Dans une culture où on est juif par la mère, on trouve deux païennes dans les ancêtres du Messie. Et voilà un nouveau mystère qui se révèle doucement à travers les siècles. L'Évangile, ça n'est pas que pour les Juifs. Le peuple de Dieu, ce ne sont pas les Juifs seulement. À ce tronc d'Israël, les païens vont venir se greffer. Alors, où est-ce qu'on en est de cette révélation progressive ? Eh bien voilà, on en est là. Tout est accompli. C'est ce que Jésus a dit à la croix. Ça veut dire que il n'y a rien de plus qui doit être révélé. Il n'y a pas de secret caché qu'on pourrait découvrir ailleurs que dans la révélation qu'on trouve dans la Bible. Depuis la mort de Jésus à la croix, la révélation est complète. Mais même là, on observe encore une démarche dynamique. En tout cas, moi, je l'observe. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez, à la fin. non plus dans la révélation, puisque tout est accompli, mais dans son application. Voilà ce que je suggère. Paul dit en Galates 3:28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. On voit dans le Nouveau Testament que cette égalité dans le salut, face au salut, elle a des conséquences pratiques dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. Les premières communautés chrétiennes sont constituées de juifs d'abord, puis ensuite les païens sont arrivés, donc de juifs et de païens, avec des difficultés pratiques, les difficultés que ça implique. En acte 7, on voit par exemple que les chrétiens qui venaient du judaïsme, ils avaient tendance à favoriser les veuves juives au détriment des veuves d'origine païenne. Et donc, ça commence à râler. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça, pratiques, à régler, parce qu'il y a des différences culturelles, il y a encore quelques discriminations qui existent là. Puis, il y a des difficultés théologiques, on le voit en acte 15. La question se pose là, est-ce qu'il faut que les chrétiens d'origine païenne se fassent circoncire ou non ? La réponse apportée, c'est non, c'est pas la peine. Mais voilà, on voit que ça apporte un certain nombre de difficultés. Conséquences pratiques aussi, et je ne sais pas, on y pense peut-être moins souvent, mais cette égalité de traitement toute nouvelle amène les juifs à voir des païens devenir responsables de communautés. Je ne sais pas si vous imaginez le pas que ça représente pour des gens qui, pendant des millénaires, ont vécu comme un peuple séparé des autres peuples. Le responsable de la communauté, là, c'est un païen. Disons, ça, c'est quelque chose. Donc voilà pour il n'y a plus ni juif ni grec. Maintenant, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Alors là, la démarche dynamique dans l'application de la révélation a mis un peu plus de temps, me semble-t-il. C'est quoi les conséquences pratiques de cette affirmation ? À la fin du XVIIIe siècle, John Newton, un capitaine de navire négrier, se convertit à la foi chrétienne. Et cet homme comprend les implications de sa conversion. Il se repent de la traite des Noirs, il devient pasteur anglican et il prêche dans ses sermons l'abolition de l'esclavage. Et parmi les gens qui l'écoutent, parmi ses ouailles, il y a un homme qui s'appelle William Wilberforce, qui est membre du Parlement anglais, et c'est lui qui va transformer en action politique les sermons de son pasteur. Et il va obtenir gain de cause en 1807. Quelques décennies plus tard, c'est la France et les États-Unis qui vont emboîter le pas à l'Empire britannique et abolir l'esclavage à leur tour. Cette histoire, c'est une histoire que vous pouvez voir dans un film qui est sorti en 2006, qui s'appelle Amazing Grace, et je vous y encourage parce que ça vaut la peine, tout simplement. Mais ça, c'est le côté glorieux. Pour le côté sombre, je vois deux choses. D'abord, c'est qu'il y a quand même 19 siècles qui se sont passés entre cette parole et l'abolition de l'esclavage. La deuxième, c'est que parmi les plus fervents opposants à William Wilberforce se trouvaient d'autres parlementaires, tout aussi chrétiens que lui, qui justifiaient l'esclavage, Bible en main, parce que c'est ce qui s'était fait durant des siècles. Et ça aussi, c'est la vérité. Et pour finir, il n'y a plus ni homme ni femme. Quelles sont les conséquences pratiques de cette affirmation ? Est-ce qu'on est arrivé au bout de ces conséquences, y compris dans les pays où le christianisme a imprimé sa marque ? Est-ce qu'on est arrivé au bout de ces conséquences dans l'Église ? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des chrétiens pour justifier, Bible en main, une différence de traitement entre hommes et femmes ? Je dois dire que je suis particulièrement heureux d'être dans une communauté, la nôtre, qui, je crois, va au bout, comme elle le peut, en tout cas, des conséquences pratiques de cette affirmation. Ici, les femmes comme les hommes peuvent prêcher, peuvent être membres du conseil, peuvent devenir pasteurs. Et quand je regarde autour de nous, que ce soit dans le panorama ecclésial, culturel ou sociétal qui nous entoure, je me dis que c'est encore prophétique, parce que cette parole ne s'est pas encore pleinement réalisée. La deuxième chose importante qu'on voit dans ce texte, c'est un langage de croissance. Comment est-ce que Paul annonce le Christ ? Il l'annonce en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse. Donc tout être humain, ça veut dire pas une poignée d'initiés déjà pour commencer, c'est tout être humain, tout être humain. Et il y a un but à tout cela, et le but, il est là, c'est porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. Ce qui signifie d'une part que tout n'est pas donné d'emblée. Là aussi, on est dans une démarche dynamique de la foi. Tout ne va pas de soi dans la vie chrétienne, et ce n'est pas parce qu'on a donné sa vie au Christ qu'on est arrivé au bout du chemin. En fait, on est au début. On a à grandir dans la foi. Tout au long de notre vie, on a à grandir dans la foi. Et d'autre part, ça signifie que la croissance prend du temps. Rappelez-vous de ma petite infographie de Colossiens 1, 9 à 11 et de sa spirale vertueuse. Notre croissance est alimentée par notre connaissance de Dieu qui nous amène à un comportement digne, ce qui nous fait porter du fruit, ce qui nous fait croître dans notre connaissance de Dieu, ce qui nous affermit dans la foi et nous amène à nouveau à un comportement digne sur d'autres domaines probablement, parce que l'idée est que nous allons de progrès en progrès. C'est une spirale montante, on pourrait dire, dans la sainteté en tout cas. On va de progrès en progrès. Et pour ça, Paul veut armer les croyants. Ça, c'est les versets 2, 1 à 5. Chapitre 2, versets 1 à 5. Si Paul parle de ses souffrances dans le ministère, c'est pas pour se faire plaindre. C'est pas pour se faire plaindre. En Colossiens 2, 2, il dit que c'est pour que les croyants soient encouragés, bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction de l'intelligence. Parce que ça, dit-il encore, c'est ce qui va leur permettre de connaître le mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et le but de son exhortation, elle est au verset 4. Il dit cela pour que personne ne nous abuse par de beaux discours. Alors, le terme grec traduit ici par « ne vous abuse », que personne ne vous abuse, c'est, je vais essayer, « paralogizomai ». Alors, je ne le dis pas pour faire le malin avec des termes grecs, même si ça fait toujours classe. Je le dis parce que c'est assez facile à translittérer en français. C'est « paralogisme ». Paralogisme. On peut se laisser abuser par une logique parallèle dans le discours. Ce que je disais tout à l'heure, c'est les mêmes mots, mais ce n'est pas la même logique qu'il y a derrière. Ce n'est pas la même définition des mots qu'il y a derrière. Ce n'est pas le même Dieu qu'il y a derrière. Pourtant, c'est le même mot donc, qu'on utilise. Ce n'est même pas le même Jésus dans la bouche de celui qui est en face de nous. On peut se laisser abuser par une logique parallèle dans le discours. Une logique donc, qui ressemble à Christ, qui a le vocabulaire du Christ, mais qui est hors du Christ. Une logique qui nous dit, par exemple, qu'il y a des trésors cachés qui ne sont accessibles qu'à une poignée d'initiés. En fait, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ, et Christ, il est pour tous, il est pour tout le monde. C'est donc pas la peine d'aller chercher ailleurs. L'entreprise de connaissance de Dieu est vouée à l'échec si elle est dissociée de Jésus. Parce que c'est lui qui tient le monde dans sa main, c'est lui qui sait comment le monde fonctionne. Tout subsiste en lui, c'est ce qu'on a vu la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, en Colossiens 1, verset 17. Cette connaissance de Dieu est absolument accessible parce que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Ce qui signifie qu'on n'a pas, nous, à monter vers Dieu par le biais de rites initiatiques ou je ne sais quelle pratique religieuse. C'est lui qui descend vers nous. Tout ce que nous le faisons non pas pour nous élever vers Dieu à force d'efforts et d'initiation à je ne sais quoi, mais nous le faisons parce que lui est descendu jusqu'à nous et que nous sommes confondus par son amour. On a juste à se laisser rejoindre. On a juste à s'accrocher à lui solidement sans se laisser embarquer à tout vent de doctrine. Bien, nous avons vu que le mystère dont Paul est le révélateur, c'est un truc tellement caché que c'est révélé au monde entier. C'est pour tout le monde. Paul va voyager partout pour révéler ce mystère bien caché, voyez. Le salut, c'est pour tous, juifs et non-juifs, maîtres et esclaves, hommes et femmes. Et ce salut, il a des conséquences pratiques. Il fait tomber les barrières, il libère les captifs, il nous amène à grandir en sainteté et en connaissance de Dieu dans une spirale vertueuse qui nous fait aller de progrès en progrès. Et tout ça se trouve en Christ. Tout ça est l'œuvre du Christ qui tient le monde dans sa main et qui se révèle à qui il reconnaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire Seigneur et Sauveur de ce monde. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les conseils réunis en séminaire, là, on a discerné que Dieu nous demandait de nous attacher à la croissance spirituelle de l'Église. On est attentif aussi, je l'ai dit, à la croissance numérique, mais l'accent est mis sur la croissance spirituelle. Et je crois que c'est à ça que nous appelle ce texte, à nous ancrer tous et chacun en Christ, à nous armer face à un monde de plus en plus confus, de plus en plus exposé à des ventes doctrines mortifères qui sont accessibles en un clic sur Internet. C'est tellement facile aujourd'hui de voir. Je veux dire, avant, vous aviez que l'Église pour vous informer, mais maintenant, ce n'est plus le cas du tout, en fait. Il y a ma petite voix le dimanche matin pendant une demi-heure, et puis il y a Internet qui fait... Mais c'est toute la semaine, quoi. Toute la semaine. Ce n'était pas comme ça avant. Maintenant, il y a une grande diversité accessible. C'est à la fois une richesse et c'est aussi un danger. Parce que dans cette diversité, effectivement, il y a des doctrines qui ne nous tirent pas vers le haut. De ce monde, on ne veut ni s'extirper, ni nous y conformer. Et en fait, c'est une ligne de crête qui est difficile à tenir. Cette ligne de crête, on ne peut l'arpenter que si nous avons des convictions qui sont affermies par notre proximité avec Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et l'Esprit-Saint qui vit en nous. Alors l'Église, on l'a vu tout à l'heure, ne manque pas d'outils, je crois, pour que nous puissions grandir dans notre foi, que ce soit individuellement ou collectivement. Tous ces outils sont à votre disposition. Eh bien, je ne dirai qu'une chose, saisissez-les. On va prier et puis ensuite on aura un chant. Seigneur, nous voulons te remercier parce que vraiment tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous constatons en même temps tout autour de nous qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres paroles, parfois des paroles qui sentent le Christ, qui ont une sorte d'odeur de Christ et qui pourtant n'ont rien à voir ni avec toi ni avec ton Fils. Seigneur, on a besoin d'être de plus en plus fins parce que nous avons de plus en plus accès à tout vent de doctrine, effectivement, et donc nous avons besoin de te connaître toujours mieux. Peut-être plus fort qu'il y a un siècle ou deux où nous n'étions exposés qu'à notre entourage proche, qu'à notre église, nos voisins éventuellement. Le monde a bien changé, Seigneur, et nous sentons que nous avons besoin d'être fermement ancrés en toi, parce que nous entendons toutes sortes de choses autour de nous, parce que nous avons accès à toutes sortes de choses autour de nous. Et nous avons besoin de pouvoir repérer, parce que nous te connaissons, parce que nous connaissons la vérité, de pouvoir repérer ce qui sonne faux, juste un peu faux, mais déjà faux, Seigneur. Nous avons besoin de ça, et nous savons que pour ça, eh bien, il n'y a pas d'autre manière de faire que de te connaître toi, que de te connaître mieux, que de nous ancrer dans ta vérité, dans la vérité de ta parole, parce que nous voulons marcher droit devant toi. Nous voulons marcher droit devant toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle, parce que tu es celui qui peut nous conduire, qui nous conduit vers les pâturages d'herbes fraîches. Seigneur, ta parole est la vérité, nous ne voulons pas nous en écarter. Nous te prions de nous y aider. Nous te prions de nous donner les moyens de nous ancrer en toi, Seigneur. Et si nous ne les avons pas, Seigneur, je te prie de nous mettre à cœur de les chercher de toutes nos forces pour que nous puissions trouver ou être bien nourris de façon à être bien ancrés dans ta parole. C'est au nom de Jésus que je te prie.